France Musique.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous.
Vous voulez revenir ce matin sur une information tombée il y a quelques jours.
Absolument, écoutez donc nos confrères de France Info.
France Info. Un monde d'avance en Tchétchénie où le régime autoritaire de Ramzan Kadyrov vient d'inventer un nouveau type de censure en limitant le tempo des musiques. Il sera désormais formellement interdit d'écouter des œuvres dont le rythme ne se situe pas entre 80 et 116 BPM, 80 et 116 battements par minute, une fourchette extrêmement précise.
Voilà, les Tchétchènes interdits de musique trop lente ou trop rapide. La presse en a pas mal parlé ces derniers temps. Notre valeureux confrère de France Info précise que le régime tchétchène vient d'inventer un nouveau type de censure. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'une série de Tendez l'oreille pendant quelques semaines sur l'histoire des censures musicales. Toutes les fois où une autorité religieuse ou politique s'est permise, comme récemment en Tchétchénie, d'intervenir dans des paramètres musicaux.
Sait-on de quand datent les premières censures musicales ?
Eh bien, comme toujours à 8h30 le samedi matin, on peut remonter à l'Antiquité. Platon avait une attitude plutôt critique vis-à-vis de l'art. En gros, il oppose la raison, qui tend à la vérité, à l'imagination artistique, qui tient de la pensée la plus basse, c'est-à-dire l'illusion. Être artiste, c'est prétendre, c'est l'imitation de l'imitation. Nos auditeurs philosophes le savent mieux que moi.
Mais c'est plus compliqué que cela, j'imagine.
Alors effectivement, Platon avait une position ambiguë. Il avait à la fois un amour de l'esthétique et de la technique poétique et un dédain pour les arts.
Mais ça restait plutôt théorique, non ?
Ah oui, sa censure des arts, on l'a dans sa République. Il bannit les poètes de son utopie, mais ça reste une utopie. Et si je vous parle de Platon, c'est parce que sa position un peu ambivalente vis-à-vis de l'art va rester dans la philosophie religieuse des siècles plus tard. En religion, on aime la musique, mais faut pas pousser.
Toute mauvaise parole pervertit les bonnes mœurs, mais quand la mélodie est avec, cela transperce beaucoup plus fort le cœur et entre au-dedans, tellement que, comme par un entonnoir, le vin est jeté dedans le vaisseau. Aussi le venin et la corruption est distillé jusqu'au profond du cœur par la mélodie.
Ça, c'est Calvin, en 1542, qui rappelle les dangers de l'efficacité de la musique. La mélodie touche le cœur. Elle invite à une expérience qui se situe sur le plan de l'émotion, certes, mais si la musique est efficace pour le bien, elle peut être tout aussi efficace pour le mal. Et là, on l'a, un des premiers exemples de censure, Calvin, en 1547, va quand même interdire la danse dans tout Genève, parce que la danse, c'est dans l'Ancien Testament. Et que l'Ancien Testament, c'est quand même un peu beaucoup trop juif pour lui. Et ça s'est généralisé. Imaginez, grosso modo, que sans cette censure de Calvin, peut-être qu'il y aurait aujourd'hui encore de la danse dans les églises, ce qui paraît complètement inconcevable.
Après, j'imagine que toute censure, Christophe, dans l'histoire de la musique, n'est pas respectée à la lettre.
Alors, tout à fait, Gabriel, ce qui m'amène au véritable objet de cette première chronique sur les censures, l'Irlande. Nous sommes en 1695 en Irlande. Les Anglais élisabétains puis cromwelliens occupent le territoire. Les catholiques doivent tout céder, leurs possibilités politiques et citoyennes, leurs terres, leur éducation, etc. Et en 1695, on formalise tout ça à travers ce qu'on appelle les lois pénales. Et les lois pénales sont extrêmement répressives envers la culture gaélique. En 1695, on interdit la langue gaélique, les contes, la musique et la danse.
Attendez, vous voulez dire qu'au XVIIIe siècle, la musique et la danse irlandaise n'existaient pas ?
Alors, n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu un mouvement de résistance. Des masters, des professeurs de danse, ont battu secrètement la campagne pour continuer à faire danser les villages. Les danses se faisaient derrière des portes closes, sous la table, hein, comme on dit, afin de ne pas les oublier. Parce qu'une culture, ça s'oublie très vite. Et de la restriction est née une forme musicale fascinante, le lilting. On vous enlève votre instrument de musique, il vous reste la voix. Le lilting, c'est par onomatopée le fait de reproduire les inflexions, les articulations de l'instrument. Et c'est grâce au lilting qu'on a pu, à la levée des lois pénales au 19e siècle, opérer un Celtic revival et remettre tout ça à l'instrument. Tendez l'oreille.
La conclusion, Christophe.
Eh bien, il ne faut pas être naïf. Nous sommes en 2024, le produit de notre histoire musicale, et donc nous sommes le produit de vagues successives de censure. Et je pense que ça va être intéressant, là, dans les prochaines semaines, de lire l'histoire de la musique, non pas comme l'histoire des changements d'un style à l'autre, mais comme justement l'histoire d'une interdiction à l'autre. Ce qu'on voit de nos jours avec l'Ukraine et la Russie et la Tchétchénie paraît inconcevable. Voyons, on ne peut pas supprimer toute une culture. Mais il faut bien se souvenir que c'est arrivé près de chez nous et que ça a failli arriver aux Irlandais. Et ça, on va tâcher de ne pas l'oublier, Gabriel.
Et grâce à vous, entre autres, Christophe. Mmh. Tendez l'oreille la semaine prochaine, donc un autre pays, une autre époque, une autre censure.
Peut-être l'interdiction des femmes dans le chant choral à l'époque baroque. Voilà.
Merci Christophe, bon week-end. Et bien sûr, cette chronique est à la réécoute sur l'application Radio France. Bon week-end.
Bonne semaine.
À réécouter sur francemusique.fr.